régler, excusez-moi, je vais être cru, l'hostie de problème chez les ambulanciers, là. Qu'est-ce qui se passe?
Bonne fin de journée tout le monde, bon début de semaine. Le manque de main-d'œuvre, vous savez, ça peut avoir des conséquences de toutes sortes. Qu'un restaurateur ne puisse prendre une réservation par manque de serveurs ou qu'un commerce revoie ses heures d'ouverture, c'est une chose, mais qu'on n'arrive pas à porter assistance à quelqu'un en détresse, bien ça, c'en est une autre. C'est ce qui est arrivé en fin de semaine alors qu'une dame de 91 ans est morte juste avant l'arrivée des ambulanciers qu'elle a attendus pendant 7 heures. On ne parle pas d'une histoire là, qui s'est produite en région éloignée, mais à Montréal, dans le quartier Rosemont, presque en plein centre-ville. J'en parle avec Anaïs Elbouche-Dahini qui a suivi cette histoire. Salut Anaïs.
Bonsoir Michel.
Tu as parlé au fils de la victime, toi, aujourd'hui.
Et à sa belle-fille qui était l'aidante naturelle de Mme Thérèse Pardiac. Et là, le couple, il est sous le choc après avoir dû appeler à chaque heure le 911 après que Mme Pardiac ait fait une simple chute. Ils ont appelé entre 21h et 3h du matin à chaque heure. Et ils ont dû attendre ensuite, quand le décès a été constaté, que les enquêteurs soient sur place pour constater le décès, parce qu'il y a aussi une enquête du coroner qui est ouverte. C'est une mort indigne, selon le couple, qui ne s'explique pas les ratés du système.
Elle a toujours, toujours, toujours aidé. Puis qu'elle finisse une mort comme ça, c'est dégueulasse.
Pourquoi ils sont pas assis sur la route à Montréal-Laval, qui est 50 % de la population du Québec et qui est une distance, c'est énorme, là, à patrouiller? Donc, il y a un paquet d'affaires qu'il faut qu'on revoie pour assurer vraiment la sécurité, parce qu'elle avait 91 ans, elle avait peut-être des problèmes de santé cognitifs, mais c'est pas une raison. Ça va être un enfant la prochaine fois, ça va être quelqu'un dans la trentaine. Parce que si elle s'est pas brisée la hanche, elle en est quand même morte de douleur.
Anaïs, cette histoire-là survient alors qu'aujourd'hui, il y a le syndicat des paramédics de Montréal et de Laval qui font des moyens de pression pour dénoncer leurs conditions de travail.
Oui, ils ont plusieurs demandes, le syndicat notamment, d'augmenter les embauches, d'avoir aussi des primes qui s'apparentent à celles d'autres secteurs du service public. Et aujourd'hui, le syndicat a demandé à ses membres de réellement prendre ses pauses dîner, chose qui leur est pas permise en temps normal. Mais il y a autant Urgence Santé que le syndicat qui déclare qu'il n'y a pas d'impact sur le service au public. Parce qu'une situation comme celle de Mme Pardiac, qui est décédée, je le rappelle, dans la nuit de dimanche soir, c'est une situation qui révèle un plus gros problème, là, et notamment un manque de recrutement de personnel criant.
Il fallait se concentrer sur les appels urgents. Et malheureusement, on ne fonctionne pas avec la douleur ou avec l'âge, on fonctionne avec la priorité et le risque au niveau de la vie. On a réévalué l'appel, et même Info Santé a réévalué cet appel-là aussi. On a maintenu cette priorité 4. Là. Est-ce que ça tard, c'est long? C'est beaucoup trop long, on sait tout ça.
Il arrive des événements comme ça, mais qui ne devraient pas se produire dans un système comme ça. Si on était des effectifs comblés, si on avait les incitatifs et les primes pour entrer en temps supplémentaire, les cars seraient comblés, puis on aurait beaucoup plus de véhicules comme ça sur la route.
Urgence Santé, à qui j'ai parlé, rappelle que c'est une situation là, déplorable, mm-hmm. et qu'ils vont attendre les recommandations du coroner et qu'ils vont s'assurer de les suivre.
Oui, donc on va laisser l'enquête du coroner se poursuivre. On en reparlera. Anaïs, merci beaucoup.
Merci.
Autre conflit de travail, bien, on devrait savoir à 20 h ce soir si les 2400 syndiqués employés de Via Rail vont déclencher ou non une grève générale illimitée. Un syndicat affilié à Unifor a accordé quelques heures de délai à l'employeur. La grève toucherait les employés qui travaillent dans les gares, à bord des trains, dans les centres de maintenance, aux centres clients Via et bien sûr dans les bureaux administratifs. Les syndiqués ont voté en faveur d'un mandat de grève à plus de 99 %. Uber se retrouve dans l'eau chaude après une enquête du quotidien britannique The Guardian partagée au Consortium international des journalistes d'investigation. Ce qui en ressort est ni plus ni moins que scandaleux. On parle de harcèlement, d'espionnage, de renvoi abusif, de dossiers cachés pour éviter des poursuites, d'évasion fiscale Et j'en passe. Notre collaborateur Yves Boisvert est avec nous pour en parler. Bonsoir, Yves.
Bonsoir, Michel.
Alors, il y a un ancien haut dirigeant de Uber qui a décidé, en fait, de se mettre à table et de pas mal tout raconter des pratiques de l'entreprise. D'abord, est-ce que tu es surpris de ce qui est sorti?
Pas du tout, Michel, parce qu'on l'a vu au ralenti sous nos propres yeux, ici même au Québec. La façon dont Uber s'est emparé des marchés, c'est un peu par de l'intimidation juridique, même des pratiques qui frôlent le banditisme. C'est-à-dire qu'ils se sont attaqués à des marchés réglementés dans plusieurs endroits où tu ne peux pas t'improviser chauffeur de taxi. Et ils ont dit, bien, nous, on ne fait pas du taxi, on fait du partage. Mm-hmm. On fait de l'autopartage.
C'est l'argument.
Exactement.
Mais il y a de l'argent, il y a des gens qui sont payés là-dedans.
Ben oui, exactement. Donc, c'était évidemment, c'était un paravent pour ce qu'ils faisaient. Maintenant, par exemple, dans la ville de Québec, quand on saisissait le véhicule d'un chauffeur Uber parce qu'il n'y avait pas un permis de taxi, Uber payait pour la caution, payait l'avocat.
Enfin, il y a
des,
tout,
des chauffeurs qui ont été arrêtés comme ça 3 ou 4 fois. Donc, ils ont mis beaucoup, beaucoup d'argent à faire pression, en fait, sur les gouvernements. L'évasion fiscale, Michel, il y a un moment donné une saisie de Revenu Québec dans les bureaux d'Uber à Montréal.
Oui, parce justement, il y a eu des enquêtes, on a suivi le dirigeant d'Uber ici à Montréal. Là.
Ben oui, puis il y avait... C'est un système d'évasion fiscale aussi et d'évitement fiscal. Mm-hmm. Et la maison mère en Californie a fait effacer les dossiers dans les ordinateurs qu'il y avait à Montréal. Alors, tout ça, Michel...
À distance, pour
à
être
distance,
sûr que...
Exactement. Et ça, c'était dans des décisions des tribunaux. Donc, je suis absolument pas surpris de ça. Maintenant, au fil des mois et des années, ils ont fini par faire flancher ou fléchir les gouvernements, parce que c'est vrai...
Il y a eu du lobbying là, auprès de
beaucoup
dirigeants,
de là,
entre autres Emmanuel Macron, c'est ce qu'on a appris. Ça, c'était...
Bien sûr.
Est-ce que ça t'a surpris?
Ça m'a pas tellement surpris de la façon suivante, c'est-à-dire que beaucoup ont été séduits, avec raison, par la technologie d'Uber. Ils amènent quelque chose de nouveau, ils rendent le transport plus facile. Donc, c'est pas mauvais en soi, c'est simplement la façon dont ils se sont imposés. Ils ont fini par obtenir des règlements, des aménagements avec les différentes instances dans les villes et dans les provinces et les pays, selon les cas. Et donc, ces tactiques-là ont réussi. Mais ce dirigeant, Mark Meghan, qui est un lobbyiste, en fait, bien lui, ça fait déjà presque 6 ans qu'il a démissionné d'Uber. Donc, entre guillemets, ce sont de vieilles histoires, mais qui refont surface parce que, bien sûr, ils ont nié tout au fil du temps, à part de toutes les autres histoires de harcèlement et ainsi de suite qu'ils ont...
Et les dirigeants actuels n'ont pas l'intention de présenter des excuses?
Non, parce qu'ils disent maintenant, c'est une nouvelle administration, on ne fait plus ça, tout est correct. Et effectivement, ils ont eu beaucoup d'ententes avec les gouvernements et même au niveau fiscal dans certains cas.
Un autre élément pour salir l'image de Uber. On va voir comment cette entreprise va s'en sortir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Il n'a toujours pas fait de profit.
Ah, ouais. C'est important à souligner. Merci beaucoup, Yves. Le Canada enfreint ses propres sanctions contre la Russie ce week-end en autorisant l'envoi de turbines à une compagnie russe en Allemagne. Décision prise pour assurer la sécurité énergétique européenne, dont une bonne partie du gaz provient de la compagnie Nord Stream. La décision a provoqué de vives réactions, surtout auprès de la communauté ukrainienne. D'ailleurs, Kyiv vient de convoquer l'ambassadeur du Canada. Devant ce tollé, les États-Unis se sont rangés derrière le Canada aujourd'hui. 2 jours après le rétablissement de la panne majeure chez Rogers, le ministre François-Philippe Champagne a rencontré les dirigeants de toutes les entreprises de télécommunications canadiennes. Ça s'est passé cet après-midi. Il vient de faire le point sur cette rencontre avec les médias. Étienne Fortin-Gauthier a suivi ça. Salut, Étienne.
Salut, Michel.
Alors, le ministre, en fait, les a convoqués, ces géants des télécommunications, pour s'assurer qu'une panne comme celle qu'on a connue vendredi, samedi, ça ne se reproduise plus.
Oui, il a demandé à Rogers, puis à tous ces géants des télécommunications un peu partout au Canada, ceux qui sont nationaux, mais aussi dans certaines des provinces, comme Vidéotron au Québec, qui est seulement présent dans la province, de vraiment trouver des solutions rapidement, de poser des gestes immédiatement, parce qu'il a dit que c'est inacceptable la situation qu'on a vécue chez Rogers vendredi. Point final. Il y a annoncé d'ailleurs qu'une enquête allait être ouverte par le CRTC pour savoir le fond de l'histoire. Mm-hmm. Et il a dit qu'il fallait vraiment s'assurer que nos réseaux soient plus résilients, pour pas que 12 millions de clients de Rogers soient touchés, comme on l'a vu dans les derniers jours, mais aussi des millions d'autres. Hein. Il y a des commerces, beaucoup en Ontario, parce qu'il y a une grande partie des clients de Rogers qui sont dans cette province-là. Il y a des commerces qui n'ont pas pu faire d'affaires pendant une journée complète, pas émettre de factures, pas faire d'appels auprès de leurs clients, et ça a tout bouleversé leurs activités.
On pouvait même plus se servir d'Interact, peu importe si on était abonné Rogers ou pas. Est-ce que le ministre Champagne leur a fait des demandes particulières à ces géants?
Oui, notamment concernant les services 911, parce qu'il y a des centres d'appel au Canada 911 qui ont été bouleversés, qui ont eu des problèmes à cause de ça. Ils leur demandent d'ici 60 jours une clause d'assistance mutuelle, donc qu'ils partagent leur réseau s'il y a une autre panne de ce genre-là. Et également, une autre clause qu'ils leur demandent, c'est un protocole de communication très clair avec le public lors de pareilles crises, parce qu'on l'a vu, ça a été... Il y a eu très peu de communication de la part de Rogers pendant la journée. Et on sait qu'il y a aussi également une demande de recours collectif d'un cabinet d'avocats de Montréal pour les clients au Québec. On verra. Ils demandent 400 $ par client pour ce qui s'est passé.
Ça pourrait coûter cher à Rogers. Ouais. Merci beaucoup, Étienne. Les premiers ministres des provinces et des territoires sont réunis jusqu'à demain à Victoria, en Colombie-Britannique, dans le cadre du Conseil de la Fédération. La question des transferts en santé occupe une bonne partie des discussions. Les provinces demandent qu'Ottawa augmente ses transferts de 22 % à au moins 35 %. L'érosion des berges causée par le transport maritime inquiète de plus en plus les riverains du fleuve Saint-Laurent, alors que certains d'entre eux ont déjà perdu plusieurs mètres de leur terrain. Il y a une action collective de 50 millions de $ qui suit son cours. Les résidents exigent des actions rapides d'Ottawa, comme nous le dit Louis-Philippe Bourdeau.
On est à Verchères aujourd'hui. Il y a la voie maritime du fleuve Saint-Laurent juste à côté de nous. Et les infrastructures anti-érosion qui ont été construites il y a plusieurs décennies de ça, bien, ne sont plus entretenues par le gouvernement fédéral depuis la fin des années 90. Résultat, il y a de plus en plus de propriétaires qui s'inquiètent de perdre leur terrain, mais surtout de perdre leur tranquillité d'esprit.
Et on veut que préserver ça, non pas juste pour nous, mais pour les générations futures. Ici, on voit il y a une grande plaque de béton qui est tombée. Bien, il n'y a pas longtemps, elle était là. Il y a des gens qui sont en train de perdre leur maison. Les murs de béton qui avaient été construits par le fédéral, ça faisait comme un rempart sur lequel on pouvait marcher pendant des kilomètres. Moi, j'ai plus rien, là. Tout est parti. Des gens qui n'avaient pas de problème l'an passé voient leurs murs se détacher.
C'est à l'autre côté où est-ce qu'il y a les arbres, là.
Les bateaux y en passent de plus en plus et de plus en plus gros, donc ça fait beaucoup de vagues. Quand arrive le printemps, bien là, il y a de la glace qui s'est faite pendant l'hiver, puis quand ça commence à fondre, bien la vague des bateaux, l'eau est haute, bien là, c'est là que les gros morceaux partent.
Et on est à Verchères aujourd'hui, mais des citoyens de Contrecoeur, de Varennes, ont aussi demandé à Ottawa d'intervenir, entre autres par le biais de pétition. Et déjà en 2004, il y a un rapport d'Environnement Canada qui identifiait la navigation commerciale comme un des principaux responsables de l'érosion.
Et il y a plusieurs études qui démontrent qu'effectivement, l'effet du navire, quand les vagues qui viennent frapper la berge, bien, c'est en grande partie la cause de l'érosion. Et récemment, j'ai écrit à M. Stephen Guilbeault. La situation devient tous les jours plus dramatique et dangereuse.
Si vous l'aviez devant vous, là, demain, la première chose que vous lui dites à M. Guilbeault, c'est quoi?
Je dirais, M. Guilbeault, aidez-nous. Il y a un problème, il est sérieux.
Le gouvernement fédéral dit qu'il est maintenant de la responsabilité des propriétaires de mettre en place des mesures pour freiner l'érosion des berges, mais ça coûte une fortune. C'est justement pour cette raison que les résidents ont entamé une action collective, mais ça pourrait prendre des années avant de se régler.
L'action collective cherche d'avoir une réparation des berges, aussi qu'il y a un programme d'entretien. Pendant ce temps-là, les berges se détériorent de plus en plus.
Bien, moi, ce que je peux pas comprendre, c'est qu'en 1962, le gouvernement était responsable des berges puis a fait les travaux nécessaires. Aujourd'hui, ils sont plus responsables.
Le fleuve, c'est un joyau, mais les berges, c'est son écrin. On ne peut pas en faire abstraction. Il faut aussi en prendre soin.
Un des pires criminels de l'histoire du Québec est mort en fin de semaine. Maurice Mom-Boucher a succombé à un cancer de la gorge. Il avait 69 ans. Il est mort au pénitencier Archambault à Sainte-Anne-des-Plaines. C'est un établissement à sécurité super maximum. En fait, c'est le seul au Canada. Accusé d'avoir commandité le meurtre de deux agents des services correctionnels, il a été acquitté en 1998, puis rejugé en 2002, où il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Il aura purgé, finalement, 22 ans derrière les barreaux avant de mourir. Le journaliste aux affaires criminelles pour la presse, Daniel Renault, est avec nous pour nous parler de ce personnage. Bonsoir, Daniel.
Oui, bonsoir.
Les criminels, il y a des criminels qui l'admiraient. Les forces de l'ordre, pour eux, c'était un cauchemar. Comment tu qualifierais cet homme-là, que certains ont qualifié de psychopathe?
Bien, Maurice Boucher, c'est fort probablement, là, et c'est même réduit un peu, un mégalomane qui, à un certain moment donné, s'est vu plus gros que la justice, a même voulu s'attaquer au système de justice, comme vous l'avez dit, en s'en prenant à des gardiens de prison, mais aussi à un journaliste, Michel Auger. Même si Maurice Boucher n'a jamais été accusé de cette tentative de meurtre-là, la police soupçonne que c'est lui qui est derrière ça. Mais c'est surtout l'instigateur d'une guerre qui a fait 160 morts, 160 blessés, dont une vingtaine d'innocentes victimes.
Là.
La guerre des motards de
1994
à 2002. Exact. Et c'est une guerre qu'on n'a jamais vue d'une telle ampleur, qu'on n'a jamais vue dans l'histoire criminelle du Québec, mais aussi du Canada.
Il y a des gens, peut-être les plus jeunes, qui n'ont pas vécu cette guerre des motards-là, mais ça a terrorisé vraiment une partie du Québec. On se souvient, entre autres, d'une victime innocente.
Oui, Daniel Desrochers, un garçon de 11 ans qui a été tué par les éclats d'une bombe parce qu'on visait un trafiquant de drogue, mais on s'est trompé. Mais il y a eu d'autres victimes innocentes. Rappelez-vous, Hélène Brunet, cette serveuse dans un restaurant qui, à un moment donné, des tueurs sont entrés dans le restaurant et la cible, qui était un prêteur d'argent, s'est servie d'elle comme bouclier humain. Il y a eu toutes sortes d'histoires épouvantables durant cette guerre-là, des explosions, parfois deux dans la même nuit et des morts.
C'était horrible, là.
Oui.
C'était horrible. Vous disiez qu'il se voyait plus gros que le système de justice, entre autres. À quel point il a forcé les forces policières à revoir leurs pratiques et travailler peut-être ensemble?
Bien, ça a mené à la création, cette guerre des motards-là, à la fameuse escouade de Carcajou. C'est tous les principaux corps de police qui étaient réunis ensemble pour mettre fin à cette guerre-là. Et ça a donné l'opération Printemps 2001, au cours de laquelle, finalement, à l'issue de laquelle les membres des Nomades, le groupe de Maurice Boucher et leur club école des Rockers, ont tous été arrêtés, accusés et condamnés à de lourdes peines. C'est ça aussi qui a mené à l'opération Shark, parce que la police s'est dit, on a réussi avec Printemps 2001, allons-y plus loin avec Shark. On a aussi construit un palais de justice et on a surtout adopté une loi anti-gang au Canada pour lutter contre les motards.
Est-ce qu'il jouait encore un rôle derrière les barreaux?
Non.
Non?
Non. Il n'avait plus d'influence. Par contre, il avait encore certains fidèles, dont Grégory Woulet, avec lequel il a comploté, c'est quand même assez récent, en 2015, le meurtre du caïd Rénal Desjardins. Et aussi, il s'en est pris à un co-détenu à coups de pics artisanaux. Donc, Maurice Boucher, même en prison, n'aura jamais été réhabilité. Et ça, c'est le dernier juge qui l'a condamné, qui l'a dit.
Et la mort de Maurice Mom-Boucher dans l'univers criminel actuel, est-ce que ça change quelque chose?
Ça change rien, sauf que si aujourd'hui les Hells Angels sont l'organisation criminelle la plus puissante au Québec, c'est à cause de la guerre qu'ils ont gagnée en 2002 et qui avait été initiée par Maurice Boucher.
Daniel Renault, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Merci. Au revoir.
On parlait du super-héros qui s'était donné rendez-vous au Palais des Congrès cette fin de semaine pour le fameux Comic-Con. Il y a mon collègue Jérôme Scalia qui a suivi de près un passionné de cet événement haut en couleur.
J'aimerais mieux mettre Dédé de Geek Squad que mettre mon vrai nom. Il faudrait écrire tout simplement le gardien de Marvel. cette pièce-là, qu'est-ce qu'elle représente pour moi? Des années de désir, beaucoup, beaucoup de recherches pour trouver chacune des pièces pour compléter cette collection-là. J'ai commencé à faire aussi de l'impression 3D, à m'acheter des machines, à faire mes statues pour moi-même. Dès mon tout jeune âge, j'ai commencé à collectionner des cartes de collection au niveau de Marvel. Pas des cartes de hockey, des cartes de Marvel. Que ce soit les bandes dessinées, des statues, un casque de collection, le cosplay, de devenir le personnage. C'est un tout, l'univers Marvel. C'est plus grand que juste une passion. C'est plusieurs passions réunies ensemble. La sensation de passer de mon moi-même à tous les jours, Daniel, à aller enfiler mon costume de Spider-Man. On s'oublie soi-même, on devient le personnage. La différence de mettre un costume, exemple, pour aller faire l'Halloween ou d'aller dans des rassemblements comme ça, comme le Comic-Con, c'est de se retrouver avec d'autres passionnés. Puis c'est fou, les costumes sont vraiment intéressants. Ils ont mis du temps, c'est des passionnés. C'est un rassemblement de famille. C'est vraiment un plaisir partagé de se rencontrer, puis de s'admirer, puis de discuter aussi de nos passions. L'idée, le concept, la conception, la fabrication, les choix de matériel, où les trouver, puis de s'identifier à un univers plus qu'un autre.
Dans la vie de tous les jours, quand je dis que je fais des costumes, ils sont comme « Ah ouais, OK! » Tandis que je peux parler des heures avec d'autres personnes qui font du cosplay de différentes techniques, pas voir le temps passer. Donc, c'est comme revenir à la maison, parce que c'est le fun. On peut voir tout ce que les autres ont fait, puis aussi apprendre d'eux. Ça, c'est vraiment une passion. On met les heures, on se coupe, on se brûle, mais ça nous dérange pas parce que le résultat vaut la peine. Tout le monde nous prend en photo, c'est comme une petite victoire.
Quand tu arrives à l'étape finale, tu regardes vraiment le temps, les efforts que tu as mis pour créer vraiment l'idée que tu avais. Puis là, tu l'enfiles, puis tu deviens ce personnage-là. Puis les gens te reconnaissent étant le personnage que tu as décidé de créer puis d'être. Bien, c'est vraiment valorisant, puis c'est reconnaissant, là.
Bonsoir, Sabrina.
Salut, Michel.
On va connaître le nom du successeur de Boris Johnson au mois de septembre, c'est ça?
Oui, le 5 septembre exactement. Et d'ailleurs, le dépôt des mises en candidature a déjà débuté. Ça devrait se terminer demain. Il va déjà avoir un premier tour mercredi pour éliminer certains des 11 candidats. Puis il y aura déjà un second tour jeudi pour éliminer d'autres candidats. Mais le nom, vraiment, officiellement, ça va être au mois de septembre prochain. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui.
Bon. Ce qui se passe aujourd'hui dans au Québec, entre autres, c'est le camp de développement du Canadien qui se déroule, en fait, jusqu'à mercredi au complexe sportif Bell à Brossard.
Oui, les nouvelles recrues qui ont patiné ce matin aux côtés de la nouvelle consultante en développement du Canadien, Marie-Philippe Poulin. C'était l'occasion aussi de voir le plus récent premier choix du Canadien, Juraj Slafkovski. Et les recrues de l'an passé, Kaiden Goulet et Logan Mayou, n'ont pas patiné avec leurs coéquipiers aujourd'hui en raison de blessures.
Oui, on voulait voir, hein, les voir en premier sur la glace comme ça.
Le premier choix.
Qu'est-ce qu'on va surveiller ce soir aux 22h?
Bien, notamment, on va revenir sur cet ingénieur qui a défrayé les manchettes, tu te souviens, la semaine dernière. Simon Hull. Oui. Là, selon plusieurs médias, il y aurait eu une nouvelle agression sexuelle et on va en parler avec l'avocate criminaliste Nada Boumefta.
C'est à 22h, on regarde
Parfait.
Ça. Merci beaucoup, Sabrina.
Bonne
émission. Excellente soirée, tout le monde. Bien sûr, le fil 17h30. Demain, bye bye.